Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, David Rostet, heureux pasteur de cette église. Et avec mes collègues Myriam, Mathé, Francesco, Gangemi, on s'est retrouvés et puis on a choisi ce thème, l'espérance, l'espérance chrétienne, donc hein, on ne va pas parler d'une autre, l'espérance chrétienne, et puis c'est une série qui va nous laisser le temps de méditer notre chemin jusqu'à Pâques. Pâques, c'est un peu le centre de la vie chrétienne, même s'il y a un peu tout le monde qui est en vacances. Je vous rappelle que Pâques, c'est le centre de la vie chrétienne et on va pouvoir se retrouver pour fêter de manière spéciale quand même notre espérance en Christ qui est vivant. Amen. Et c'est ça l'espérance finalement. Alors on regarde, dans le Nouveau Testament, il y a énormément de textes qui nous en parlent, comme celui-là. Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Et soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre quoi ? De l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça dans l'épître de Pierre, donc chapitre 3, verset 15. Une autre personne nous parle de l'espérance, un certain Paul. Paul de Tarse, qui a écrit beaucoup de lettres dans le Nouveau Testament, il dit « C'est d'elle que moi je suis devenu ministre, selon l'intendance de la Bonne Nouvelle, donc selon l'intendance de Dieu qui m'a été accordée pour vous, afin d'accomplir la parole de Dieu. Ce mystère qui a été caché de tout temps et à toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté, on vient de le chanter, qui s'est maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître qu'elle est parmi les non-juifs, la glorieuse richesse de ce mystère. » Et quelle est la glorieuse richesse de ce mystère ? Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et peut-être l'un des versets les plus connus de la Bible, 1 Corinthiens 13, 13, 13, normalement on le lit dans un mariage, mais on n'est pas un mariage, mais je le lis quand même. Or maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Bon, l'espérance n'a pas gagné sur ce coup-là, mais c'est quand même sur le podium. Donc, on a le droit de aussi en parler pendant ces 6 prochaines semaines. Et l'espérance chrétienne, comme on est dans une introduction, c'est assez simple à définir. C'est l'attente de la venue de Jésus. C'est ça, vous n'avez pas besoin de vous creuser la nénette. Il y a plein d'autres définitions qu'on peut trouver dans le monde, dans le développement personnel, dans tout ce que vous voulez. Pour nous, les chrétiens, ça peut être une manière d'enrichir cet élément-là. Mais l'espérance chrétienne, c'est l'attente du retour de Jésus. Alors, je vais faire un petit sondage ce matin. Qui, ce matin, en se levant, s'est dit, ce matin, en tant que croyant, mon espérance, c'est d'attendre le retour de Jésus. Une, bravo, bravo. Une seule personne. Et puis, c'est bien ça notre problème, c'est que on est face à un petit malaise. C'est que nous savons que c'est juste, il n'y a personne qui va me qualifier d'hérétique, j'espère, à la fin du culte, parce que je vous ai dit que l'espérance chrétienne, c'est attendre le retour de Jésus. On sait tous que c'est juste. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, donc ce n'est pas une question d'enseignement. Ça, c'est déjà un bon point. Mais nous avons de la peine à y croire, et nous avons de la peine à faire nôtre cet article de foi fondamental. On a vu qu'il était sur le podium, l'espérance. Et nous avons de la peine à la faire nôtre dans notre vie quotidienne de la foi. Alors, il y a une forme de malaise hein, par rapport à cette question, puis vous allez ressortir du culte, puis vous allez vous dire, le pasteur nous a un peu remonté les bretelles, il nous a dit qu'on avait besoin d'avoir de l'espérance en Christ du retour de Jésus, donc maintenant, semaine prochaine, on y va, hors de marche, et puis c'est parti mon kiki. Mais ce n'est pas vraiment le but de mon propos. J'essaye d'un peu de creuser pourquoi est-ce qu'on avait peut-être de la peine à faire nôtre cette notion d'espérance, d'attendre finalement cette deuxième venue de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on pouvait avoir autant de peine, puis le sondage l'a montré ce matin, que ça ne fait pas partie vraiment de notre vie quotidienne de foi, de se dire que dans ma prière, je me place par rapport à cette venue, cette deuxième venue de Jésus. Alors j'essaie d'explorer un peu trois éléments. Il y a l'élément que j'ai appelé « Je reviens bientôt », il y a l'élément que j'ai appelé espérance, mais de vie. et l'élément « déjà pas encore ». Oh, maintenant, c'est un peu cryptique, mais j'essaie de vous l'expliquer. « Je reviens bientôt ». C'est qui a prononcé ces paroles? C'est Jésus, mais c'est aussi, par exemple, une maman lorsqu'elle est dans sa cabine d'essayage puis qu'elle dit à son petit enfant « Je reviens bientôt ». Ça peut aller assez loin. C'est une anecdote que j'ai de mon petit voisin quand j'étais petit. Maintenant, les choses ont bien changé, mais c'était assez intéressant parce que pour lui, la notion de « bientôt » était très aléatoire parce que ce n'était pas forcément 2 minutes. Ça pouvait durer plus longtemps. C'est l'affirmation de Jésus qu'on trouve dans l'Apocalypse. Au chapitre 3, verset 11, « Je viens bientôt », et quelle est la recommandation qu'il nous fait à nous en tant que croyants, en tant qu'Église ?« Reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. » Encore un verset qui nous pousse à aller dans cette dimension d'une espérance vivante, c'est-à-dire d'une espérance qui est effective dans ma vie de croyant de tous les jours. « Je reviens bientôt, reste attaché à ce que tu as. » Mais il a quand même annoncé qu'il était là bientôt. Donc, on se rend bien compte que c'est une notion assez floue, ce « bientôt ». Parce que vous savez, quand il a prononcé ces paroles, ça fait quand même un peu près 2000 ans. Donc, pour un cerveau normalement constitué, le délai est très long. Si je dis à mes enfants que je reviens bientôt, j'espère ne pas attendre 2000 ans, mais que ce soit un peu plus court. On rigole, mais ce n'est pas si évident que ça pour nous, en tant que chrétiens. Parce que quand il y a quelqu'un qui nous dit que je reviens bientôt et que ça fait 2000 ans qu'on attend... C'est long. Et je pense que c'est une des raisons majeures qui explique qu'on a de la peine à faire nôtre cette réalité de la vie de foi, d'attendre véritablement que Jésus revienne à nouveau sur cette terre. Parce que cette notion « je viens bientôt », elle s'est petit à petit, au cours des siècles, un poil essoufflée. Parce que 2000 ans, c'est long. Et même quand on pense aux prophéties de l'Ancien Testament, j'ai relu pendant cette semaine Ésaïe 9, par exemple, qui annonce cette lumière qui vient dans les ténèbres. On dit qu'elles ont été écrites à peu près 700 ans avant la venue du Christ. Donc même le peuple d'Israël, qui a eu de la peine à attendre aussi la venue du Messie, si bien qu'ils ne l'ont pas reconnu, on se rend compte que même pour eux, ils étaient moins exigeants que nous d'une certaine façon, puisqu'ils n'ont que dû attendre 700 ans. Nous, on est déjà à 2000. Donc, c'est juste pour nous dire que si on a peut-être de la peine, ça ne sert à rien de se culpabiliser et de se dire « je suis un mauvais chrétien, j'attends pas le retour de Jésus ». Mais il y a une notion de longueur qui n'est de loin pas à sous-estimer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais au début du XXe siècle, ça a donné lieu à une crise théologique majeure. Parce qu'il y a toute une série de théologiens qui étaient très croyants, très engagés, qui se sont tout à coup attardés sur cette question « mais pourquoi est-ce qu'on attend toujours 2000 ans plus tard ?» Et ça a donné vraiment lieu à des débats impressionnants, et ça a aussi donné lieu à des crises majeures où plusieurs personnes ont quitté la foi chrétienne, déclarant d'une certaine manière « c'est trop long, égal, il ne va plus revenir ». Et ils se sont lancés dans des actions très présentes, des actions sociales. Le leader, c'était quelqu'un qui s'appelait Albert Schweitzer, qui a eu une vie assez admirable et puis inspirante. Mais sur ce point-là, c'est comme s'il avait perdu la foi. Il s'est dit « j'ai plus le courage d'attendre si longtemps, j'arrête ». Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là que c'est paradoxal, parce qu'il a gardé l'exemple du Christ, de l'amour du prochain, puisqu'il allait fonder des hôpitaux tout partout où il y avait besoin de fonder des hôpitaux. Donc, ça lui a donné l'élan, cette perte de la foi dans le retour de Jésus, ça lui a donné l'élan de fonder quantité d'hôpitaux et de passer de la vie de pasteur à celui de médecin. Bon, il était assez fort, parce qu'il était théologien, médecin, organiste, il avait plein de qualités, mais toujours est-il que ça lui a donné cet élan-là pour aller faire quelque chose d'autre. Donc, il y a quelque chose d'interpellant. Deuxième notion, c'est la notion d'espérance de vie. Est-ce que vous savez à quel âge Jésus est-il mort? 33 ans. Alors, est-ce que vous pensez qu'il était plutôt jeune ou plutôt vieux quand il est mort? Ça dépend, jeune, vieux, ça dépend, ouais. Alors là, c'est très helvétique, hein, comme réponse, c'est un tiers, un tiers, un tiers, et je dois trancher. Alors, je tranche en vous disant qu'il était vieux. Quand j'ai découvert ça aussi l'autre jour, j'étais complètement scotché, j'étais là, c'est impressionnant. Je ne suis jamais dit que Jésus, quand il est mort, il était vieux. Mais l'espérance de vie à son époque-là, dans le premier siècle après Jésus-Christ, c'est 31 ans dans l'Empire romain. Donc Jésus a vécu jusqu'à 33 ans. Il a dépassé de 2 ans l'espérance de vie à son époque. Or, c'est un peu rigolo de parler de ça ce matin, de coronavirus, mais l'espérance de vie pour nous, normalement aujourd'hui, elle reste quand même de 81 ans pour les hommes. D'ailleurs, c'est les plus atteints par le coronavirus, hein, voilà la preuve. Et 85 ans pour les femmes. Ça fait quand même une différence, si je ne m'abuse, de 50 ans, voire 54 ans de différence. Et ça change aussi pas mal de choses par rapport à l'espérance qui est la nôtre d'une vie après la mort. Ça change aussi pas mal de choses par rapport à une espérance d'une venue de Jésus. Pourquoi ? Parce que notre manière de considérer la vie, même moi qui ai 40 ans, je considère que normalement j'en ai encore pour au moins 40. J'ai statistiquement cette notion-là. Quand on était au 1er siècle, et puis tous les textes du Nouveau Testament ont été composés au 1er siècle, et que notre espérance de vie, quand on commençait peut-être à lire, c'était à 20 ans, 10 ans plus tard, normalement, on était déjà dans le domaine de l'espérance, c'est-à-dire de la vie éternelle. Donc la notion d'espérance, ça change pas mal selon ce qu'on a 10 ans encore à vivre, ou 40 ou 50 ans de vie sur Terre. On est beaucoup plus propice à investir notre vie sur Terre et beaucoup moins ce qui va se passer après, si on a 80 ans devant nous, ou bien si on a 30 ans devant nous. Donc de nouveau, on n'a pas besoin de trop se culpabiliser, parce qu'on est dans des contextes par rapport aux textes du Nouveau Testament qui sont quand même assez différents, juste par rapport à cet élément qui nous paraît basique de l'espérance de vie. Si on a 80 ans devant nous, ou si on a 30 ans devant nous, on ne va pas considérer de la même manière ce qui va se passer à notre mort. Pour nous, ça nous paraît très éloigné. Pour les personnes du 1er siècle de l'Empire romain et tous ceux qui ont composé le Nouveau Testament faisaient partie de cette catégorie-là, pour eux, c'était une réalité quasi quotidienne. Ça ne leur posait aucun problème de s'imaginer dans une vie après la mort. Et du coup, l'espérance était quelque chose de nettement plus fort pour eux. Alors, est-ce encore possible ? Et puis là, j'aborde mon troisième point sur cette expression qui est relativement connue dans les milieux chrétiens, du « déjà pas encore ». Parce que cette notion de la deuxième venue de Jésus, la première chose qu'on peut dire, c'est que ça reste vrai. C'est pas parce que c'est difficile à comprendre pour nous que c'est une doctrine qu'on peut se dire qu'on met de côté. Puis ça, j'aime bien le rappeler quand même, parce qu'on s'écoute quand même pas mal, les Occidentaux, et puis on se dit, si je le ressens plus de cette manière-là, certainement que je pourrais adapter ma théologie, hein, ce serait pratique. Je me dis, cette question-là, je la laisse un peu de côté, j'arrache les 2-3 versets qui me parlent de ça, ou bien je les interprète différemment, et puis on va dans une autre perspective. Ça reste complètement vrai que Jésus est annoncé comme étant celui qui va revenir. C'est celui qui va venir chercher son Église à la fin des temps. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a même un verset, puis là je me suis un peu planté dans l'ordre, mais il y a même un verset dans le Coran qui nous annonce que Jésus est en vérité l'annonce de l'heure. C'est la sourate 43, j'ai découvert ça aussi, j'étais assez étonné de voir que même pour le Coran, il y a cette espérance que la fin des temps va être déterminée par le retour de Jésus. Donc même les musulmans y croient à cet élément-là et à plus forte raison encore pour nous d'y croire. Jésus est en vérité l'annonce de l'heure. Donc, ça reste vrai, il n'y a rien qu'à bouger à ce niveau-là. C'est une réalité qui va arriver bientôt. Patience, patience, je crois que c'est Myriam Mathé qui va nous parler de toutes les théories qui sont autour, donc ça je suis sûr que ça va être croustillant, ça va être plein. Le dimanche là, 15 mars. Question, est-ce que ça reste encore possible ? En tout cas, ça reste vrai. Ensuite, c'est aussi un des problèmes, et puis que je voudrais un peu aborder maintenant, c'est cette notion du « déjà, pas encore ». Je ne sais pas si vous avez vu fait attention quand on a médité ces deux premiers versets de Pierre et de Colossiens. Qu'est-ce qui nous est dit par rapport à Jésus ? Et puis que sa présence parmi nous. Il nous a dit que la présence du Christ est déjà en nous actuellement. Le Christ est déjà présent dans mon cœur, dans notre cœur. On le sent, il y a cette réalité de la foi intérieure qui est là. Du coup, on se dit, mais pourquoi attendre? Hein, ça, c'est logique. Pourquoi attendre celui qui est déjà là? J'ai déjà Jésus dans mon cœur. Quel est le but, finalement, de l'atteindre encore, qu'il revienne véritablement? Et ça, je pense que c'est un troisième écueil qui peut un peu limiter notre espérance, même si c'est un écueil positif, parce que, d'une certaine façon, on a déjà tout, mais on n'a pas encore tout. C'est un peu cette tension du déjà, pas encore, parce que Jésus est déjà dans notre cœur, il est déjà en nous, mais il n'est pas encore pleinement révélé, pleinement actif dans toutes les sphères, ni de mon cœur, ni de ma personnalité, ni dans le monde. C'est cette notion du royaume qui est déjà là et qui est encore à venir. Cette notion du royaume qui est déjà actif dans notre monde, dans notre vie, mais qui sera pleinement réalisé à la fin des temps. Et ça, pour nous qui sommes quand même assez axés sur le présent, puis ça aussi en lien avec l'espérance de vie, c'est aussi plus compliqué à se dire qu'on va attendre une réalisation complète alors qu'on a déjà, finalement, l'avantage d'avoir Jésus dans notre cœur, d'avoir déjà cette présence en nous. Mais par contre, on peut le regarder différemment, c'est pour ça que j'ai mis que c'est le moteur du « déjà pas encore », puis c'est la piste que je voudrais vous laisser ce matin pour déjà commencer à vivre notre espérance, c'est de se dire que la perspective du royaume, le fait que ce soit pleinement réalisé, ça devrait nous maintenir dans une forme de tension productive et féconde pour vivre déjà peut-être plus intensément ce que ce sera pleinement à la fin des temps. Ces petites bribes qui, des fois, on a de la peine à les distinguer parce qu'on a l'impression que les ténèbres prennent tout le dessus, ces petites bribes du royaume, si on garde les yeux fixés sur cette espérance à venir, sur cette espérance vivante à venir, je pense que ces petites bribes, elles vont prendre beaucoup plus d'espace que si on est seulement focalisé sur les réussites, peut-être, de ces petites bribes d'avance du royaume. Si on se souvient que le but final, c'est que Jésus va tenir sa promesse, qu'il va revenir et qu'il va établir son royaume, je pense que notre zèle à vivre concrètement ces valeurs du royaume, cette culture du royaume, ce sera vraiment boosté. Parce qu'on aura un objectif, et notre objectif, ce ne sera pas X autre chose, ce sera de se dire, j'attends que pleinement le royaume se révèle, peut-être que ça va arriver de mon vivant, peut-être pas, mais ce que je suis déjà en train de faire, je marche dans cette direction-là. Et marcher avec un but, c'est beaucoup mieux que de marcher sans but. Marcher avec un but, ça nous évite de tourner en rond, ça nous évite de faire je ne sais pas tout quoi. Si j'ai envie d'atteindre une cabane en montagne, je sais que j'ai envie d'atteindre cette cabane en montagne. Alors à moins d'un enjeu majeur comme de me fouler la cheville ou d'avoir un gros orage qui vient, je sais que je vais donner toutes mes possibilités d'effort pour atteindre ce but, cette cabane. Et puis c'est ça qui va tirer ma marche en avant. Et je crois que l'espérance, et c'est le seul élément que j'ai envie de vous laisser ce matin, c'est d'essayer de se dire, dans ma prière, dans ma vie de foi, est-ce que j'arrive encore à prendre cet élément du royaume à venir qui peut booster, façonner et donner de l'énergie à ma vie de foi de tous les jours? Est-ce que ces petites graines du royaume que j'essaye de voir et de semer peut-être dans ma vie de tous les jours, j'arrive à me dire que c'est des éléments en germe de quelque chose qui sera beaucoup plus grand? Est-ce que j'arrive à me dire que ce que j'essaye de vivre au quotidien, ces valeurs qui ne sont pas toujours faciles à vivre, hein, comme le pardon, comme la simplicité, comme l'amour des autres, comme peut-être la non-violence, tous ces éléments-là qui nous sont donnés dans la parole, notamment dans le serment sur la montagne, est-ce que j'arrive à me dire que ces éléments-là, je peux les vivre en sachant que je suis dans la bonne direction et que j'ai besoin d'avoir cette perspective finale pour les vivre déjà dans mon quotidien? Parce qu'il y a mille et une raisons de ne pas les vivre. On est vraiment à contre-courant si on vit ces valeurs du royaume. Et pourtant, on se rend compte qu'on a un peu de la peine à être à 100%. Je pense que l'espérance, là, peut guider notre chemin et peut surtout raffermir notre marche avec beaucoup plus de zèle. Et finalement, ce sera une antidote au désespoir. C'est quand même une des maladies de notre époque. Hein. Le désespoir ou le découragement, c'est une maladie de notre époque. Et je crois que là, de nouveau, la réponse chrétienne de se dire que Jésus ne nous abandonne pas, qu'il nous donne cette perspective-là, ça peut vraiment nous boosté sur ce chemin-là. Moteur du déjà pas encore. Toute la notion du royaume, de la culture et de ses valeurs. Quand on parle de sanctification, c'est-à-dire de devenir plus saint, je crois que c'est d'abord essayer de vivre ces valeurs du royaume plutôt que d'essayer de devenir des saints ou des gens parfaits. C'est d'abord d'essayer de se laisser inspirer par cela. Et je crois que notre marche, notre vie quotidienne, elle sera fondamentalement influencée par le fait qu'on voit déjà l'objectif et le but final. Quel que soit notre âge, quel que soit notre point de départ, le but final reste le même pour nous tous. Alors, je vous ai mis deux livres là qui m'ont pas mal interpellé et inspiré pour préparer cette série. Ça, de Henri Blocher, qui s'appelle « L'espérance chrétienne ». Puis, j'ai l'avantage de vous dire que c'est deux petits livres, donc ils font moins de 100 pages chacun. Et puis, le deuxième, c'est « Eschatologie ». Alors, ça, c'est un terme qu'il y a seulement les théologiens qui comprennent. Vous ne l'achèterez jamais, si vous voulez, mais il est très bien. Parce que « Eschatologie », ça veut dire « doctrine de la fin des temps ». Mais on peut très bien mettre « espérance et vie quotidienne ». Si on veut être plus intéressant, on parle d'eschatologie et vie quotidienne, vous avez bien compris. Mais ce n'est pas l'essentiel. Là, il y a beaucoup d'apports qui sont assez intéressants dans le but de vraiment prendre cette notion d'espérance puis la transporter dans notre quotidien, un peu comme j'ai essayé de vous le faire ce matin. Et finalement, on va se rendre compte que l'espérance, c'est de rendre compte de Jésus vivant. Parce que si on attend qu'il revienne, ça veut bien dire qu'on sait qu'il est vivant puis qu'il va tenir ses promesses. Donc, c'est rendre compte de Jésus vivant, et c'est dans ce sens-là que je nous invite toutes et tous à aller vers Pâques. C'est quand même un temps particulier, alors certains peuvent le prendre dans un temps de carême, d'enlever quelque chose, mais ce n'est pas tellement ça l'essentiel, c'est si on enlève quelque chose, c'est pour plus se rendre compte de la vivacité et de l'aspect vivant de Jésus. C'est pour faire plus de place à Jésus, à cette espérance dans nos vies. Or, peut-être que ça nous aide, chacun, à enlever quelque chose pour faire plus de place à Jésus. Peut-être que vous l'avez déjà commencé, je vous en félicite. Mais vraiment, ce but, c'est de se dire, rendre compte de Jésus vivant. C'est ça, notre espérance, c'est pour ça que c'est une espérance vivante. On sait que c'est exigeant, on l'a vu avec ces trois éléments. On part de loin, on n'est pas dans la situation la plus aisée à ce niveau-là, nous, les chrétiens du 21e siècle. Mais c'est le message que je vais vous laisser. C'est encore possible et c'est même nécessaire. Amen.